Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez mieux que moi. C'est déjà bien. Il fait chaud. J'ouvre un bouton, ça vous dérange pas? Non, ça va. Voilà. Je suis content d'être là. C'est un plaisir d'être ici ce matin. Encore bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. J'aurais beaucoup de choses à dire. Je m'appelle Jean-Pascal Hollande, sans E. Comme ça, vous savez que je viens plutôt du côté allemand et pas français. Non, mais c'était... Voilà, c'est toujours un nom de famille qui est assez rigolo, surtout en Suisse-Allemande, il se marre pas mal. La dernière fois qu'on était au resto en Suisse-Allemande, quand j'ai téléphoné, ça allait. Je crois qu'il a réussi à se contenir. Quand on est arrivé sur place, j'ai dit oui, c'est pour M. Hollande. Alors il est allé s'éclater de rire derrière le bar. Et c'était assez drôle. Je crois que chaque serveur qui venait, ils étaient enchantés de venir nous servir pour se marrer un coup. Voilà, sinon, avec Rachel, qui est là, mon épouse, peut-être que certains connaissent plus que moi, vu qu'elle est de la Chaux-de-Fonds. Nous avons un fils, Eliam, 2 ans, Anaya, 5 mois. On habite à la Chaux-de-Fonds, dans le quartier d'Esplanade. Je sais qu'il y a les vieux miers. J'ai vu les filles, j'ai pas vu les parents. Ah voilà, bonjour. Il y a Suzy aussi. Voilà, Suzy qui est là. Il y a Edna aussi. Non ? Ah, c'est Edna, oui, Edna, elle est venue nous aider souvent à Quartier Libre et on la remercie beaucoup et on est content qu'elle soit aussi parmi vous au réveil. C'est vrai que c'est une joie de la voir et de la voir servir le Seigneur. C'est excellent et je vous bénis tous. Voilà un peu pour les présentations. On travaille avec Quartier Libre notamment. On est sur un projet d'implantation d'église. On forme aussi des jeunes, des ados et on voit que l'église commence à 12 ans déjà. Et on les forme et on veut qu'à 15-16 ans, ils puissent déjà parler de l'évangile eux-mêmes. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, qu'ils puissent à 15-16 ans déjà former d'autres. On aimerait que les seniors dans notre église aient déjà 16 ans. Mais il y a une force là-dedans. Il y a une force. Et je crois que les personnes plus âgées sont aussi renouvelées de voir des jeunes qui avancent. Et dans ce moment-là, en tant que personnes âgées, on voit aussi la force qu'on a de l'expérience. De pouvoir appuyer, encourager, prier, être présent. Et puis des fois, dans des moments de faiblesse, on est là avec eux pour les soutenir. Et j'aimerais vous encourager dans ce sens ce matin, que chacun, là où il est, à sa place, à son importance, va bénir le Seigneur encore ce matin. Seigneur, moi je te bénis parce que ta parole est vérité, ta parole est bonté et grâce. Et ce matin, on veut encore affirmer que toi, Jésus, tu es cette parole. Tu es cette parole écrite, tu es cette parole vivante dans nos cœurs. Nous te bénissons ce matin. Saint-Esprit, nous te prions que tu animes ce matin nos cœurs de ta parole, qu'elle soit vivante encore aujourd'hui pour nous transformer. Comme tu as vécu, Seigneur, comme tu as agi dans l'histoire, tu agis encore aujourd'hui. Nous te bénissons, toi le Dieu de l'histoire, toi le Dieu qui nous accompagne dans nos histoires personnelles, comme tu l'as fait avec ton peuple. Comme tu l'as fait avec le peuple d'Israël, comme tu l'as fait avec les disciples et avec chacun de ces disciples durant les 2000 ans d'histoire depuis que tu es venu, tu le fais encore aujourd'hui. Amen. J'aimerais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 12. J'ai dû choisir un chapitre dans l'évangile de Jean, c'était terrible parce qu'il y a tellement de choses. D'ailleurs, j'ai dû choisir un petit bout de la Bible pour parler ce matin. C'est Jean 12. Verset 23, j'aime bien lire la Bible, donc on va lire un petit bout. Ça ne vous embête pas, non? En plus, on est à l'église, on a le droit de lire la Bible, hein, je crois. Jésus, verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu sur cette terre, à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit : Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Jésus leur répondit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète. Amen. Ce matin, je vous ai lu ça, j'aurais pu choisir Jean 8 aussi. Ce matin, j'avais plusieurs envies, j'en ai choisi deux. Mais une principalement, c'est de, en lisant l'évangile de Jean, des fois on se pose des questions sur la Bible. Et par exemple, une question qu'on peut se poser avec l'évangile de Jean, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun récit de délivrance ou d'exorcisme ou de Jésus qui chasse les démons dans l'évangile de Jean ? Vous êtes tous au courant que dans l'évangile de Jean, on ne voit pas Jésus faire cela. Vous êtes d'accord ? Non ? Pas forcément. Bon, vous voulez relire ? On peut vite relire si vous voulez. On reprend au chapitre 1. Non, mais c'est vrai, moi ça m'a surpris. Je me dis, mais pourtant Jésus, c'est celui qui domine le mal, c'est celui qui est présent sur cette terre. Et dans ce message, j'aimerais répondre à ça et montrer aussi qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là, ou qu'est-ce que Jean a voulu mettre en lumière. On le verra plus tard. Et avant d'entrer vraiment dans l'introduction, comme ça, j'aimerais vous dire que ce matin, que chacun puisse être encouragé à chercher Jésus, à chercher à le connaître et à demeurer en lui. Et j'aimerais vous dire, c'était cette phrase qui me revenait en priant, mais ne lâche pas. Ne lâche pas l'affaire, comme on dit. Hein, quand on est sur un bon coup, ben on tient quand on est à la pêche, on ferre le poisson, on le garde. J'aimerais vous encourager à continuer de demeurer en lui, dans sa vérité. Dans ce monde, on est dans une lutte. C'est un combat. On ne peut que le constater autour de nous, dans nos familles. En premier, peut-être qu'on le voit. Dans notre société, bien sûr, dans le monde, on le voit. Mais en nous aussi, il y a une lutte qui se passe. Il y a une lutte en nous et parfois c'est nous qu'on commence. C'est nous qui commençons cette lutte. C'est même nous qui participons. Nous participons parfois à l'œuvre du mal. Même en tant que chrétien, parfois. C'est pas évident. Et c'est vrai qu'on mériterait la mort. Direct. Allez, direct. Selon Dieu. Non, Dieu fait grâce. Mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, autant dans cette lutte, on reconnaît notre péché qu'à la même seconde, on reconnaît que Christ nous sauve. Ça, c'est l'évangile. C'est en même temps qu'on reconnaît qu'on est pécheur et en même temps qu'on reconnaît qu'on a le salut et la joie en Jésus-Christ. Au même moment. Mais cette souffrance que le mal produit, parce qu'il existe, et c'est pour ça qu'il y a la souffrance dans ce monde, c'est parce que le mal existe. Et il y a cette souffrance qui est là. Et souvent, face à cette souffrance, on peut être face à des questionnements et on peut y répondre de différentes manières. On peut se dire, ben oui, moi, je vais lutter contre l'injustice. Moi, je vais faire plein de choses. Ou d'autres disent, ben non, tant pis. Oh, faut laisser faire, tu verras. Ça passera, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Puis au fait, ça ne va jamais mieux. Puis ceux qui luttent, des fois, ils s'essoufflent après. Et des fois, on passe de l'un à l'autre. Mais qu'est-ce que l'évangile nous parle ? Qu'est-ce que la parole nous dit là-dedans ? Peut-être que Jésus nous annonce une troisième voie. Cette troisième voie, je la prends d'un certain Tim Keller, qui est un de mes auteurs préférés pour le moment, avec d'autres. Mais cette troisième voie, c'est celle de l'évangile. C'est celle que l'homme ne connaît pas de lui-même. Cette voie, c'est celle que Jésus-Christ annonce, qui nous dit que lui est le sauveur. Lui, il lutte en premier. Lui a conduit. Et lui nous amène dans cette lutte et dans la passivité en même temps. Dans cette lutte de dire oui, avec l'œuvre du Saint-Esprit en moi, je vais agir. Et en même temps, à cause de Christ qui a déjà tout fait, à quelque part, je n'aurai plus grand-chose à faire. et quand on œuvre avec le Seigneur dans la lutte, dans ce monde, c'est de nouveau, c'est un peu les deux en même temps. Et c'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous parler, pour nous dire. Maintenant, c'est peut-être une saison où je te demande d'être plus actif. Mais même dans l'activité, Dieu nous dit de nous reposer en lui. Que lui, il agit. Et dans notre activité, on sache que Dieu agit. Et dans notre repos, on sache que Dieu agit aussi et qu'on peut agir avec lui. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'exorcisme ou de délivrance dans l'évangile de Jean ? On peut se poser la question déjà, pourquoi est-ce que Jean, il n'écrit pas tout sur la vie de Jésus ? Parce que déjà, normalement, c'est le disciple qui était le plus proche de Jésus, c'est celui qui, pendant le dernier repas, avait la tête posée sur la poitrine de Jésus, c'est celui qui faisait partie des trois tout proches de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas tout ? Franchement, ce n'est pas correct. Lui qui parle de la vérité, Jean qui écrit tellement de choses. Mais il y a plein de choses que Jean n'a pas écrit. Il n'a pas écrit sur la naissance de Jésus, le sermon sur la montagne. Il n'a même pas écrit le Notre Père. Vous vous rendez compte ? Il n'a même pas écrit sur le repas du Seigneur, sur le dernier repas. Jean, pourtant, il aurait pu le décrire. Dire « Oui, j'étais couché comme ça. C'était trop bien, j'ai vécu plein de choses, j'ai vécu la paix, là, j'ai senti le Saint-Esprit. » Je pense que Jean aurait pu écrire des choses comme ça, sincèrement. Il aurait pu dire tout ce qu'il ressentait. À la place, il a choisi d'écrire le lavement des pieds. À la place, il a choisi de montrer que chaque apôtre, encore, même lui-même se met dans le paquet, avait besoin que Jésus lui lave les pieds. On peut se poser justement ces questions-là face à la date de l'écriture de l'évangile de Jean. Jean l'a écrit, c'était le dernier à écrire un évangile. Et peut-être qu'il a voulu apporter quelque chose. On sait que pendant cette période, c'était en l'an 90 à peu près, dans cette période, il y avait un peu des luttes dans l'Église. Certains disaient « Oui, moi je suis plutôt de Pierre. Oui, Pierre, c'est quelqu'un de super. Alors moi je le suis. En plus, il est proche des Juifs. Ah non, il est bien, Pierre. Vraiment, c'est un costaud, c'est un solide. En plus, il avait une bonne barbe, il paraît. » Non, on ne sait pas. Mais il y avait un peu ces luttes-là. Et puis, ce n'est pas forcément Pierre ou les apôtres qui le créaient, mais c'était les gens qui s'attiraient, qui venaient dans cette attitude. Et si on lit Paul, on voit aussi qu'à ce moment-là, certains se traitaient de super apôtres. Oui, moi je suis un super apôtre. Moi je sais bien parler. Moi je sais faire que les gens m'aiment ou apprécient mes messages, ou etc. Et Jean là-dedans, par exemple, en ne mettant pas le dernier repas, il montre le lavement des pieds. Et il veut dire quelque chose par là. Il ne veut pas dire on était juste 12 super apôtres, mais il veut dire malgré ces 12 qu'on était tout proche de Jésus. On a eu besoin de sa grâce, de sa bonté. On a encore eu besoin que lui intervienne dans notre vie avant et pendant qu'on va. Donc on voit que Jean avait un but quand il écrit. Il avait envie d'apporter sa couleur, sa compréhension de la vie de Jésus. D'ailleurs, on le voit hein, quand on lit aussi tous les autres épîtres, tous les autres les petits livres de Jean. On voit qu'il y a un goût qui appartient à Jean. Il y a quelque chose aussi très fort entre le bien, le mal. On voit qu'il y a une lutte incessante. On voit que Jean est quelqu'un qui dénonce les choses. Il dénonce même les faux prophètes, les faux prédicateurs, qu'il les traite même d'antichrist. Antichrist, celui qui prend la place de Christ. Ce n'est pas forcément celui qui prêche que Jésus n'existe pas. C'est celui qui, par exemple, prêche que Jésus existe, mais au fond, c'est la personne qui se met devant. Au fond, c'est la personne qui veut remplacer Christ, qui veut devenir tellement importante. Et Jean écrit la contre. Il écrit justement, ce n'est pas les personnes qui comptent forcément dans leur ministère. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Ce qui compte, c'est l'évangile de Christ. Ce qu'on voit en lisant Jean, c'est que le combat contre le mal, il est global. Comme on l'a lu avant, le prince de ce monde sera chassé. Contre l'incroyance et contre l'erreur, on voit aussi que c'est des choses qui tiennent fort à cœur à Jean. Et puis, on voit qu'il y a une controverse. Par exemple, la seule personne accusée d'être sous l'emprise de démons, c'est Jésus. C'est les Juifs qui disent « Mais toi, tu as un démon. » Alors, est-ce qu'on devrait en conclure que c'est ça la vérité ? Non, Jésus le dira dans Jean 8 notamment. Et il va leur parler clairement. Vous êtes père du mensonge. Sous-entendu, mon père est dans la vérité. Je suis dans la vérité, dira Jésus. Et c'est ce qu'on peut en tirer. Peut-être que Jean a voulu montrer ça, que se tenir dans la vérité, ceci permettra au mal de partir. De connaître Jésus et de demeurer en Jésus, dans la vérité, c'est ça qui permet aussi à Jésus d'agir. Peut-être que Jésus, aussi en écrivant cet évangile, ne voulait pas juste montrer la supériorité des apôtres qui faisaient des miracles, etc., mais il montrait l'importance de chacun d'entrer dans cette connaissance personnelle de Jésus et de demeurer près de lui. Jean n'écrit pas contre les gens qui font des miracles, bien au contraire. À son époque, ça se faisait, il y en avait beaucoup. Mais il veut ouvrir une autre facette aussi. Il veut mettre la lumière sur quelque chose d'autre. Qu'on n'est pas juste dans cette attente de dire « Oui, j'ai besoin d'un miracle. » Et on reste ici. Mais à quelque part, Jean nous propose l'évangile. Il nous propose de connaître Christ. Parce que lui est la vérité. C'est difficile aujourd'hui d'affirmer que Christ est la vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans la rue de vous promener avec un panneau « Jésus-Christ est la vérité ». Et là, vous mettez un L majuscule à « la vérité » et à « vérité », vous mettez un V majuscule. Je pense qu'on aurait le droit à toutes sortes de commentaires. Et c'est vrai, nous sommes une société aujourd'hui où tout est bon. Peu importe ce que les gens font, on va dire, mais tant que c'est bon pour toi, c'est OK. Tant que c'est dans la tolérance, c'est vrai. Tant que c'est bon pour toi, c'est vrai. C'est ce genre de pensée qu'on trouve aujourd'hui, qu'on nous dit, oui, ton évangile, ton Jésus, c'est cool, c'est bon pour toi, alors c'est super. Et souvent, on peut en arriver à le croire un petit peu, ces vérités, à se dire, mais au fond, c'est vrai, peut-être que Jésus, c'est peut-être pas si important. Un petit peu le dimanche matin, c'est sympa. Ou lors des soirées de louanges, ça c'est cool. Oui, ça, j'aime bien Jésus. Dans les soirées de louanges, ça c'est cool. Mais quand je dois demander pardon à ma femme ou quand je commence à m'énerver, là, Jésus, c'est un peu moins cool. Des fois, on est un peu dépité face à plein de choses, puis on se dit, au moins à la maison, j'ai le droit. J'ai le droit d'être un peu comme je veux. Je fais un peu ce que je veux. Hein. Vous êtes quand même. La Bible n'est pas là contre. Pendant les vacances, quand même. Hein, je fais ce que je veux. Jésus, oui, c'est sympa, mais pendant les vacances, quand même. Pas trop. Au fond, il y a une pensée qui résonne en nous. On a ce besoin de vivre. Et des fois, peut-être là derrière, dans ces réponses toutes humaines, il manque de saisir le message de Christ, de saisir simplement que Christ, que cette vérité nous amène dans la liberté. Se dire que Jésus, c'est pas un empêcheur de vivre, mais c'est celui justement qui nous permet de vivre peut-être une vie familiale où ces luttes peut-être diminueront gentiment. Avec Rachel, je peux vous dire que les luttes, elles sont... quotidienne. Non, mais je pense que... Non, mais il y a tout. Je pense que chaque jour, il y a un petit truc où on se dit « Ah tiens, j'aurais pas fait ça comme ça. » Ou... Et puis, si ça s'accumule, on peut vite avoir un gros bagage. Et souvent, c'est vrai que Jésus nous amène là-dedans, dans la vérité, de parler la vérité, de dire la vérité. Et puis qu'on n'est plus dans un changement comme notre monde veut nous l'imposer. De vivre une vie publique toute belle, laïque, sans Jésus qui dépasse. Et une vie privée, bien fermée à l'église, où on peut s'exprimer. Et j'ai l'impression que parfois, en tant que chrétien, je suis le premier à y entrer et à le vivre comme ça. Et des fois, le vivre comme ça dans ma famille aussi. De dire que dans le privé, peut-être que je dirais que la vie chrétienne, des fois, on a une vie publique bien chrétienne et une vie privée à côté, ou des choses on se permet parce que je suis faible, parce que ci, parce que ça. Où on fait des fois un peu ce qu'on veut. J'aimerais dire que ça, ben, c'est une pensée que Christ aimerait renouveler. Et moi, j'aimerais ce matin vous encourager à continuer la lutte, parce que je sais que vous êtes au courant de ces choses, que c'est une lutte que jusque dans mon intimité personnelle, Christ demeure, que je connaisse Christ dans mes luttes les plus dures, quand c'est compliqué, quand j'ai envie de tout casser pour certains, quand j'ai envie de tout bazarder, quand j'ai envie d'arrêter, je sais pas, des choses que je faisais bien jusqu'à maintenant, ou etc. C'est là où on a besoin de Christ. Et j'aimerais profiter du culte aussi au commun pour parler de la communauté, dire que cette lutte, elle est aussi dans nos communautés, du vivre ensemble. Je pense que le monde extérieur à l'Église, on va dire comme ça, je ne sais pas comment bien le nommer, les gens qui ne connaissent pas Christ, qui ne viennent pas forcément le dimanche matin, ou qui connaissent des chrétiens, je pense qu'ils regardent comment les chrétiens vivent, comment l'Église vit, comment nos communautés vivent. Pourquoi ? Parce qu'ils recherchent comment est-ce que Dieu veut que chacun vive dans cette société. Et la communauté, c'est l'occasion de savoir vivre le pardon. C'est là peut-être une des seules occasions que les non-chrétiens ont de voir comment est-ce qu'on règle des conflits. Comment est-ce qu'on parvient à pardonner ? Comment est-ce qu'on arrive à se battre aussi contre l'injustice dans ce monde ? Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais on est en lutte et vous y êtes tous, vous le savez. Et ce matin, que vous puissiez être encouragés à continuer à demeurer en Jésus, ça vaut la peine. J'aimerais dire ce qu'on aimerait vivre dans notre société, on doit d'abord le vivre dans notre communauté. Et la Bible nous dit que ce qu'on aimerait vivre dans nos communautés, on doit le vivre dans nos familles. Et cette lutte pour connaître Christ, pour demeurer en lui, elle se vit, c'est vrai, d'abord dans nos familles. Je pense que c'est là où l'évangile prend toute sa saveur. Parce que c'est là où c'est pertinent, c'est nos frères, nos sœurs, nos parents, tous ces gens-là nous connaissent vraiment et ils peuvent voir la lumière qui est là, en nous. J'aimerais dire aussi, pour avancer un peu, que connaître Christ, c'est pas juste connaître plein de choses sur lui, c'est le connaître en personne. Et je relisais encore les Colossiens avec Rachel dernièrement, et je me dis, mais c'est vrai que connaître Christ, c'est pas juste savoir plein de choses, et connaître Christ, c'est pas non plus faire plein de choses de bien. Connaître Christ, à quelque part, il y a quelque chose d'une espérance éternelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire, et même dans Colossiens, il nous parle que l'évangile, c'est l'espérance du monde à venir. Et moi, ça m'a choqué de lire ça aujourd'hui, dans le monde actuel. Même dans les livres chrétiens que je lis, je le vois que trop peu. Je le vois trop peu. On est très attiré par le monde aujourd'hui. C'est bien, parce qu'on doit redécouvrir la puissance de Dieu pour aujourd'hui. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit comprendre que dans ce monde, notre visée, elle est éternelle. Notre visée, elle est auprès du Christ, elle est auprès de Dieu, et que nos actions ici, ce qu'on démontre par la puissance de Dieu, dans les miracles, la guérison, ces choses-là font qu'une chose, elles pointent sur le ciel, elles montrent le ciel à venir et la gloire à venir. Et c'est quelque chose qu'on doit garder dans notre message aussi auprès des gens. Je sais que c'est un message qui choque aujourd'hui, de dire qu'après la mort, il y aura une vie éternelle. Mais les gens cherchent, et trop peu de gens l'entendent encore aujourd'hui. J'avais cette pensée aussi de se dire, mais des fois, connaître Christ, des fois on s'imagine, ben, c'est juste louer, prier, lire sa Bible, etc. C'est des choses qui sont bonnes, c'est des moyens que Dieu nous donne pour le connaître. Mais j'aimerais dire que derrière, quand on connaît Christ, il y a une force. Alors j'aimerais parler peut-être aux hommes ce matin, dire qu'il y a une force, il y a une ténacité, il y a de l'audace, il y a quelque chose de, j'aimerais oser dire quelque chose peut-être de sauvage, quelque chose qui n'est, quand on rencontre Jésus-Christ, il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Il y a quelque chose là qui, qui en tant qu'homme, en tout cas pour moi, j'ai envie de le connaître plus. C'est comme si on est un peu à la chasse. Quand on connaît Jésus-Christ, on est tout d'un coup, ça réveille des instincts là d'envie d'aller de l'avant, d'envie de poursuivre une cause, d'envie de défendre peut-être des plus faibles. Peut-être que tous ne se reconnaissent pas là-dedans, mais j'aimerais vous dire que Christ, c'est ce qu'il fait. J'aimerais dire que dans l'amour qu'il a, c'est un amour fort, un amour puissant. Et j'aimerais vous inviter à le connaître plus là-dedans, à oser le connaître là-dedans, oser devenir un homme. Et pour moi, c'est un défi. Je pense que c'est le défi de ma vie. C'est d'oser connaître Christ là-dedans, dans sa puissance qui fait de moi un homme, qui réveille en moi vraiment qui je suis. Et je pense que pour les femmes, c'est la même chose. J'ai essayé de noter aussi des choses pour les dames. Me dire, mais je pense qu'avec Jésus, il y a une relation qui vous honore, qui montre toute la beauté qu'il y a en vous. J'aimerais qu'il vous, c'est sûr qu'il vous place en sécurité, ça c'est un fait. Mais j'aimerais vous dire que Christ, quand on le connaît, il vous montre, il vous révèle. Et j'aimerais qu'il montre aussi qu'à quelque part, mesdames, vous êtes indispensables à la réalisation de son œuvre. Bien sûr, personne n'est indispensable sur cette terre. Christ a tout accompli. Mais Christ a choisi que par ses disciples, hommes et femmes, l'évangile soit démontré. Que la vie de Christ aujourd'hui soit démontrée pratiquement, concrètement, inséparable de la vie spirituelle. Et j'aimerais vous dire que, mesdames, vous êtes indispensables. J'aimerais oser le dire ce matin. Comprenez-le bien. Pas pour vous dire, oui, sans vous, on ne pourrait rien faire, mais j'aimerais dire, il y a cette place pour vous dans le cœur de Dieu. Que pour la réalisation de la gloire de Dieu, pour que les gens voient la gloire de Dieu aujourd'hui, il y a besoin de vous, mesdames, et de vous, messieurs, de nous-mêmes. Irénée de Lyon a écrit que la gloire de Dieu, c'est la vie en l'homme. Et en la femme, bien sûr. Mais cette vie que nous transportons, quand nous connaissons Christ et nous demeurons en lui, quand nous osons vivre cette lutte, cette gloire se révèle. Et bien sûr, on n'est pas juste là dans un monde à essayer d'attendre un énorme miracle, que Jésus-Christ, à quelque part, nous sorte de ce monde où tout d'un coup, que tout le mal disparaisse. Jean n'offre pas cette espérance. Jean, il offre une lutte dans son évangile. Mais dans cette lutte-là, Christ est le premier à lutter avec nous. Avec Noé, son esprit est là, avec nous. Il y a une notion de combat et de persévérance dans la vie du croyant face au mal. Ce n'est pas uniquement une question de la victoire absolue de Christ. Elle est bien totale et accomplie. Marchez pendant que vous êtes dans la lumière. Quand Jean parle de la marche, une marche, ça prend du temps. Ça demande de la persévérance. Avant d'aller marcher, on met des bonnes chaussures ou on sait qu'on aura un chemin à faire. Et là-dedans, on est encouragé ce matin par le Saint-Esprit à ce que dans cette marche, on continue avec lui. Alors bien sûr, maintenant que nous connaissons Christ, nous demeurons en lui. Maintenant, il nous faut faire bien attention. Bien attention à ne pas tomber peut-être dans l'orgueil, l'orgueil d'être meilleur, l'orgueil de connaître Christ. Mais que dans cette marche, nous faisions attention à pleurer avec ceux qui pleurent, à rire avec ceux qui rient, à oser présenter la vie de Christ, la vérité telle qu'elle est, et la grâce de Dieu telle qu'elle est aussi. J'aime me rappeler que dans son humanité, Jésus-Christ a démontré toute la divinité de Christ. C'est-à-dire que dans qui il était en tant qu'homme, Jésus, pleinement homme, a su démontrer le Dieu divin et le Saint-Esprit. C'est son but encore aujourd'hui, que nous, dans notre humanité, dans nos faiblesses, on puisse démontrer et voir la gloire de Dieu. On l'a chanté ce matin, dans ces vases d'argile. Ces vases d'argile que nous sommes, Dieu a choisi que dans ces vases d'argile, il ait toute sa gloire. Christ est la gloire de Dieu. Et Christ habite en nous. Nous sommes ces vases d'argile dans lesquels Christ habite. Et ce trésor dans ces vases d'argile va être montré, va être découvert. J'aurais voulu encore passer sur des personnalités. J'ai cité Irénée de Lyon, j'aurais pu citer Marie Durand. J'aurais pu citer Dorothée Trudel aussi. Jackie Pullinger, ceux qui me connaissent savent que je la cite tant que je peux. J'aimerais citer ces dames, particulièrement ce matin. Des dames qui ont osé braver vent et marée. Des hommes, j'aimerais citer Guillaume Farel, peut-être un fou qu'on a connu par là. Un Blaise Pascal, un Frédéric Godet, un Neuchâtelois qui a su croire, c'était quoi, 19e siècle, alors que tous les théologiens bien en vue ne disaient qu'une chose, la Bible, c'est qu'une fantaisie, les miracles n'existent pas, etc. Elle n'a aucune valeur. Et lui a su, dans ces moments-là, défendre l'autorité de la Bible. Il a su prendre une cause. Et j'aimerais terminer avec ça. Cet homme a vu des choses, a cru en Dieu contre toute espérance. Parce que lui, il est mort fin du 19e siècle. Dans les années 50, 40, on a découvert des manuscrits, on a découvert même des papyrus anciens qui ont démontré la véracité et l'historicité de la Bible. Et cet homme a écrit un siècle avant. Il a défendu contre toute chose. Il est demeuré en Christ. Il a écrit des commentaires sur l'évangile de Jean, sur les Corinthiens, sur Luc. C'est incroyable. C'est un Neuchâtelois. Et j'aimerais vous le dire encore aujourd'hui, qui a osé croire contre toute espérance. Et ce matin, on veut demander à Jésus d'être avec nous. Que ce matin, il puisse nous révéler aussi que dans cette lutte, il est avec nous. Seigneur Jésus, moi je te bénis parce que tu nous encourages ce matin. Moi, je vois chacun qui vit cette lutte, qui ose vivre cette lutte aujourd'hui, chacun ici, assis. Je sais que chacun, ce matin, vit des luttes, est là-dedans. Et tu ne nous dis pas qu'il n'y en aura plus. Tu nous dis que tu es avec nous. Tu nous dis, mais continue, ose, ne lâche pas l'affaire. Continue dans cette vérité. Continue de croire en moi. Continue de t'attacher à moi, de me connaître plus. Saint-Esprit, je demande ta présence encore au milieu de nous, que tu fasses ton œuvre en profondeur, là où on a besoin. Là où dans ces luttes on se sent faible, là où on se sent nul, tu agis. Tu nous relèves et tu fais ton œuvre. Merci pour chacun. J'aimerais bénir chacun ce matin, bénir chacun là où il en est et ouvrir cette porte d'espérance que Christ, oui, a prévu une place, c'est vrai, un jour dans le ciel, et que cette espérance, elle vaut la peine. Soyez bénis vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.